Ça va bien, André? T'es supposé de commencer un intro.
Ouais, mais c'est ça. Non, mais je voulais pas vous déranger pendant vos tweets.
Ah, non, mais c'est juste que c'était vraiment une grosse journée.
Okay. Tu prêt?
Toujours.
Excellent, good.
Toujours. Ça, c'était mon imitation de gars qui travaillait 91.9. 94.3, excuse.
91.9, c'est quoi ça passe?
C'est la radio des sports.
Au
moins. JC Lajoie, c'est toi, je vais piquer ta job.
Hey, guys! C'est un peu ironique, on n'a même pas commencé à réenregistrer la cédule ordinaire, puis c'est notre deuxième live en un mois.
Notre troisième show sur
nos cinq lives en six ans. Fait, quand même, le gap est intéressant. Fait qu'un mois de juin, quand même bien rempli. Comment vous allez, les boys?
Ça va numéro un.
Ouais, ça va bien?
Très bien.
Fait qu'on est en direct du Café des Oubliettes, dans le cadre du Minifest. On a été invités à venir faire un épisode spécial de podcast ce soir. Fait que êtes-vous prêts, messieurs?
Je suis prêt, moi, quand même, je suis très prêt.
Perfect. Fait que là, y a-tu un cue ou je vais quand on le file? OK. Bon, ben on va le filer à partir de là. Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, accompagné ce soir de...
Éric Hébert, en direct de la Malbaie.
Excellent. Accompagné également de...
Jonathan Milter, comme d'habitude.
Excellent. Salut, Joe. Salut. T'as l'air smooth, man. Tout va bien? Oui.
J'aimerais remercier Jérémy Larouche d'avoir fait notre première partie.
Fait que c'est ça. J'aimerais remercier Jérémy d'avoir fait notre première partie. Toujours le fun d'encourager les humoristes de la relève. Il va aller loin, on le sait. C'est pour ça qu'on l'a invité déjà, quoi, deux, trois fois au podcast?
Deux fois.
Il va venir une troisième fois, je suis pas mal sûr.
Mais là, je sais pas si on va le réinviter. Il a quand même volé toute notre auditoire.
Mais c'est correct. T'sais, regarde, écoute, on va se reprendre à un moment donné. Guillaume, comment ça va?
Top shape. Hey, pour la première fois dans ma carrière du Geek Collectif, j'enregistre dans ma ville de résidence, à Montréal.
Oh, hey, c'est vrai, c'est ton premier homecoming, toi, à Montréal.
Oui, exact. Sinon, c'était... dans nos anciens studios et nos current studios, qui sont dans le fond hors de l'île de Montréal. Puis Melter, je dois dire, quand tu parles dans un fil de micro, t'es sexy as fuck.
Donc, pour les gens qui ne nous connaîtraient pas, ben ça, je vais peut-être être surpris si quelqu'un ne nous connaît pas ce soir. Mais bon, nous sommes Geek Collectif, le podcast. Une balado-diffusion québécoise francophone sur la culture populaire et impopulaire. Donc, ce soir, on a préparé un petit show spécial pour vous. On va aborder un sujet qui nous tenait à cœur quand on a discuté ensemble en essayant de se demander comment on va patenter notre histoire de live. Mais en réalité, c'est super simple. C'est qu'on en est venu à un constat où... il y a beaucoup d'emphases qui sont mises sur les super-héros ces temps-ci. Donc, on parle des Marvel de ce monde qui prennent l'emphase au cinéma. On a beaucoup de tendance à se souvenir des héros de notre jeunesse. Mais qu'est-ce serait un héros sans son méchant, sans son vilain pour l'accompagner? Donc, on vous a préparé un show spécial sur les super-villains, sur les méchants. Donc,
OK, attends, wow. Super-villains?
Ben, ça peut être un villain, okay, un super-villain.
Tu viens de fucker toute mon affaire, toi, là.
T'as pas reçu le texto à Malbé, toi?
Tabarnak, là. J'ai fait mes recherches. J'ai des méchants et des vilains général. Anyway, on va voir.
Excellent. Mais somme toute, le vilain de quelqu'un pourrait être le super-vilain de quelqu'un d'autre. Mais avant de débuter tout ça, on a tendance d'habitude à se référer à notre recherchiste qui nous a préparé quelque chose. Mais j'ai le goût d'introduire quelque chose aujourd'hui dans le show.
Oh.
On va aller faire un tour de ce qui s'est passé en cette belle journée du 25 juin dans l'histoire. Donc, en 1982, ben aujourd'hui, le 25 juin, il y avait Blade Runner qui sortait en salle.
Wow!
Ça a quand même influencé le cinéma moderne.
Ça a influencé le remake de Blade Runner.
Aussi.
Ça a influencé pas mal de personnes, je crois. Un autre moment aussi qui a influencé plusieurs personnes. En 1997, l'actrice Lauren Holly divorce Jim Carrey. Après 9 mois de mariage.
Ouais, ben ils se sont rencontrés au tournage de Dumb and Dumber, eux autres.
Exact, exact. Fait que c'est un slow day in news pour Hollywood.
Ouais, elle venait de rencontrer Bruce Lee, le Jason Lee. Là.
Oh! My God, tu te
souviens. C'est vrai que ça n'a pas fait long feu, hein?
Il a fallu que je le google, ça.
OK.
C'est pas lui qui est mort.
Ben, j'avoue que, ouais, c'est chiant. C'est pas une autre relation que t'as fait bien longtemps, ça.
Ben, écoute, je pense que le cinéma, les relations des années 80.
C'est parce qu'il est juste mort.
What?
Jason.
Oui!
Jason
oui.
Lee. Pas de crew, Jason quelque chose.
Je pense.
Le fils de Bruce Lee.
OK, troisième. Tu n'as d'autres.
Également, le 25 juin, il y a le cœur de plusieurs hommes qui s'est brisé. On a eu le décès de Farrah Fawcett en 2009.
Oh.
Malheureusement. Farrah Fawcett, que, de, chérie, tu me regardes, tu fais c'est qui ça? Ben,
Charlie's Angels OG, il me semble, non?
Exactement.
Too young.
Et selon mon Facebook, parce que j'ai eu le malheur d'aller cliquer ou le bonheur d'aller cliquer sur Memories dans Facebook, on me rappelle qu'en 2011, les 50 McCroquettes étaient 9,99 aux States pendant que j'étais en voyage là-bas.
Fait mental.
Que, c'est une slow day in news, c'est incroyable.
Tu as parlé de Farrah Fawcett, mais tu as oublié que le même jour, c'est Michael Jackson aussi qui est mort.
Ah, tu vois, j'ai une mémoire sélective, je pense, parce que Michael Jackson...
Ouais, on, voit les on voit les préférences d'André.
Ben, là. Mais Michael Jackson, Farrah Fawcett, c'est sûr que... Ben,
les deux avaient autant de plastique dans le corps, je pourrais dire.
Oh, je doute.
Hey, on est-tu au mini-fest ou on n'est pas au mini-fest? Il faut quand même qu'on se force pour que ça soit un peu drôle.
Ben, parlant de mini-fest, ben, on va débuter l'émission. Guillaume, tu nous as-tu préparé un petit survol? Tu nous as-tu préparé un petit quelque chose, mon cher?
Toujours. Je veux dire, tu sais, on a fait un live récemment à Valleyfield, puis tu sais, c'est comme on se dit, à la base, ça nous prépare, on est prête, mais sans rien vouloir enlever à Valleyfield, faire un live à Valleyfield, puis un live à Montréal, surtout dans le cadre du mini-fest, c'est pas le même genre de niveau de nervosité. Puis en plus, André, il a mis la barre assez haute. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi, pourquoi la barre est assez haute. Fait que là, mon stress est embarqué solide en tabarnane. Fait que.
Je m'excuse.
Sans rien laisser au hasard, tel un TED dans Marie je ne sais quoi, j'ai fait des exercices qu'il fallait. Pour laisser tomber la pression. Ted, ceux qui ne le savent pas, c'était Ben Stiller dans Marianne, je ne sais quoi.
Fait que, en gros, c'est une joke de masturbation. On va.
Fallait que tu casses le punch, fallait que le monde aille sur Internet, qu'il le trouve, qu'il voit le.
Ah, excuse.
Ben, la testicule pognée dans le zipper.
Allez pas googler masturbation, par exemple.
Non, mais tu peux aller voir Marianne, je ne sais quoi. Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches, la job semblait assez simple. André m'a envoyé un message, il dit « Ouais, je veux que tu me fasses une recherche sur les vilains, les super vilains marquants de l'histoire du cinéma. » J'ai fait « OK. » Et là, je fais une recherche, là, je suis comme « OK, les 25 best movie super villains de Vulture.com, les 20 best superhero movie villains de Rotten Tomatoes, les 20 best movie super villains you love to hate de Rolling Stone. » Et là, ça continue. Puis là, j'avais des suggestions. Là, c'était comme les best movie villains of all time, les best movie villains Thanos, les best movie villains IMDb. Puis là, ça allait par année. Best movie villain of 2017, 2016, 2018. Là, sinon, c'était les top 10 des villains of all time. Là, j'étais comme, OK, il y a genre 40 millions d'exposants 8 de super vilains. Et là, moi, j'étais comme, OK, il faut que je fasse un filtre de tout ça pour trouver ceux qui ont marqué.
Mais tout le monde est vilain de quelqu'un dans un sens.
Toi, j'ai entendu dire, Milton, que t'es le vilain de bien du monde sur Internet.
Ça se peut. ça se peut.
Je pense que t'es le vilain préféré de
D'après une review de Geek Collectif sur iTunes, je suis aussi, je semblerais un vilain.
Ah oui? Toi, Eric, je pense que t'es le vilain de bien des groupes geeks sur Facebook. Anyway, on va retourner à notre sujet. C'est que il y avait vraiment énormément de sources. C'est que moi, j'ai fait un exercice de synthèse, chose qui est assez...
Peut-être as-tu fait une matrice pour décortiquer...
Mais imaginez l'espèce de gars un peu reclus dans son appartement miteux, genre avec une map et des fils rouges, puis genre des faces, puis là, ça se promène, puis là, après ça, genre la femme de ménage rentre, puis elle capote. Mais c'était quasiment ça.
OK, c'est bon, c'est intéressant. Je m'excuse encore.
Pas grave. Pas donc, pour un peu rendre la job un peu plus facile, j'ai fait ça en 4 catégories. Il y a les meilleurs méchants masculins dans le cinéma classique, les meilleures méchantes féminines, parce qu'en 2018, il ne faut pas oublier la gente féminine. T'sais. Donc, que serait-on nous si on oublierait les femmes? Encore une fois, dans le cinéma classique, les meilleurs vilains au cinéma de super-héros, parce que dans les cinémas de super-héros, les vilaines sont pas fameuses.
Tu parlais de 2018, excuse-moi, mais est-ce que tu as une catégorie de vilains non-genrés ou non-binaires? Ou...
Malheureusement, elle n'est pas encore répertoriée, celle-là.
Il va falloir qu'on se mette à jour. Là,
en 2019, ils vont la faire, tu sais, parce que c'est rétroactif.
Opportunité d'être avant-gardiste.
Exact. Donc, mais tu sais, il y en a qui vont dire « Ah oui, mais les super-héros puis les super-vilains femmes de... » Il y en a une bonne, là, Michel Pfeiffer. Non, non, non. Laisse faire ton espèce de petit pré-orgasme adolescent.
Michel
là, de,
Pfeiffer,
dans Catwoman.
Okay,
dans Cat Batman. Woman. Mais tu sais, on s'entend.
Ouais, c'est une excellente.
À part son sex appeal, elle était vraiment pourrie.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Là,
c'est... Tu dis en sex appeal, elle était pourrie.
Non, à part son sex appeal, elle était très pourrie comme vilaine. Et ensuite, les vilains les plus décevants de l'histoire du cinéma.
OK, calice.
Donc, on va vous épargner toutes les recherches, mais on va y aller tout de suite dans le jus du sujet. Les meilleurs méchants masculins de l'histoire du cinéma classique, le premier, je le porte sur moi en ce moment, sans aucune hésitation, Darth Vader, dans Star Wars, dont nous devons la voix par James Earl Jones. On a Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, d'Anthony Hopkins. Comment ne pas oublier T-1000 dans Terminator 2, Robert Patrick. Freddy Krueger, le représentant des films d'horreur. Selon moi, c'est le seul vilain qui est digne de mention parce que les autres, c'est tous des jokes. Là. Je veux dire, j'ai jamais eu.
Darth Vader, c'est une joke?
Non, non, je parle dans les films d'horreur.
Ah, OK.
Suis André.
La fille dans Sleepaway Camp.
On parle, d'exemple, Michael Myers. Je me dis, est-ce que tu fais pas peur? T'as une espèce de masque de personne qui a plus de face. Jason Voorhees, t'es juste un gars avec un masque de hockey. Donc...
Non, mais on dirait qu'il semble oublier la partie où ce qui tue le monde avec des gros.
Pas grave, non, mais je te parle de l'impact. Freddy Krueger, il est dans une classe à part, selon moi.
Ben, Madonna Freddy, c'est le plus charismatique parce que c'est le seul qui parle.
C'est ce qui fait qu'il fait peur en tabarnane. Ouais, il vient dans tes il vient dans tes rêves en plus. C'est comme quand t'as 14 ans, puis tu.
C'est méta. Là,
c'est comme le premier méchant vilain méta parce que tu rêves dans la vraie vie, tu penses qu'il va venir, puis tu viens de voir.
C'est comme Marie-Pierre.
Puis Candyman, on n'en parlera pas.
Elle est toujours là.
Dans tes rêves?
Dans tes rêves, à TV, à radio.
Puis aussi, Guillaume, je m'excuse, mais tu commences toujours avec Candyman, on n'en parlera pas. Si, comme, là, on va
pas
parler de Candyman.
On parle des bons, là. On parle des bons. Candyman, c'est une joke.
C'est what the fuck?
Jack Torrance, on continue
laisse,
là.
Laissons-le terminer.
Continue, un peu de contenu là. Le prochain, Jack Torrance, c'est dans Shining, c'est Jack Nicholson. Et comment ne pas oublier le duo père et fils des Corleone dans The Godfather? Oh.
C'est les méchants eux autres.
Ça, c'est les meilleurs méchants, les plus marquants de l'histoire
c'est
du cinéma.
Méchants,
Tu peux les aimer ou pas les aimer, mais ça reste en sorte que c'est des vilains.
Oui, c'est vrai.
OK.
C'est sûr que The Godfather, tu vois le film ou l'histoire du point de vue des méchants, donc.
C'est ça. Fait que non, c'est des gentils.
Envers le gars, mais dans le fond, c'est un trou de cul. C'est ça que tu veux dire?
Genre.
C'est mais aussi, c'est pas des antagonistes, ça?
Oui, antagoniste, c'est un vilain.
OK, ouais, c'est bon.
Ensuite, on va tomber du côté féminin. On a, en fait, selon plusieurs sources qui s'accordent pour être sur ça, la première vraie vilaine féminine. Qui est digne de mention, c'était Louise Fletcher. Louise Fletcher, ben, c'était celle qui a joué la Nurse Ratched dans One Flew Over the Cuckoo's Nest. Encore une fois, avec Jack Nicholson. Certains diront de la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, mais ça, c'est n'importe quoi. Puis ça a été tourné genre en 1912 ou 39 ou je sais pas quoi.
Donc. Il y avait Suzanne Lapointe dans Les Démons du Midi aussi.
Oui, mais ça, je pense que le cast au complet, c'était tout des vilains. Ensuite, on tombe dans un classique qui est plus proche de nos âges, Kathy Bates, Annie Wilkes dans Misery. Un autre choix pour les plus jeunes, ceux qui ont plus.
Ça, c'est elle, attends, qui fesse le gars avec une.
Ouais, elle met une bûche entre les jambes, là, puis elle casse.
Oh, elle est hardcore en Christ.
Ouais, le dude dans God.
Ensuite, c'est le dude dans Godfather. Dans une des classiques, une des femmes qui a eu, je crois, le plus de noms, qui était le répertorié le plus souvent dans les vilaines, on parle de Glenn Close, à qui l'on doit à Cruella de Vil dans Les Sœurs Dalmatiens. Et Alex Forrest dans Fatal Attraction. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Fatal Attraction, mais la fille, c'est comme une boss qui rape un gars. Le gars essaie de prendre sa revanche, mais la fille a dit « Ah, c'est moi la fille, je vais te ruiner.
Okay, » Question pour Glenn
Close. Ça ressemble un peu à ça, oui.
Moi vous savez que je ne tripe vraiment pas ces chiens, là, genre. Là. Fait que j'ai pas vraiment écouté 101 Dalmatien quand j'étais jeune.
C'était mais comme... toi, tu t'aimais en esti Glenn Close dans 101 Dalmatien.
Non, ben c'est ça. C'était quoi son...
Elle voulait faire un manteau avec les 101 Dalmatiens.
Ben, elle a adapté Cruella de Vil d'un dessin animé à la perfection. Elle a même été nominée un score pour ça, je me trompe pas.
Oh, puis en fait, ceux qui ont suivi la carrière de Glenn Close, c'est elle aussi elle qui a fait la méchante dans The Devil Wears Prada.
Ouais,
mais...
ça, je sais.
Ah, c'est ça, je mélange tout le temps les deux films. Torture des Dalmatiens ou Torture son assistante fraîchement
mais
embauchée.
Elle veut vraiment tuer les...
Non, ben peut-être dans une autre version, mais Glenn Close... Non, ben Glenn Close a été, dans tout cas, les sources web que j'ai trouvées, il y était plusieurs à se contredire peut-être ou à être dans l'erreur.
Tu peux pas contredire ça, là.
Tu peux pas contredire
c'est Meryl Streep, ça.
On va inviter les auditeurs à nous juger et nous corriger sur la page Facebook.
Moi, je veux une spécification, par exemple. Elle voulait vraiment... Tuer 101
ouais,
chiens pour se faire
mais
un manteau.
Mais c'est
des
chiots. Ça en prend beaucoup des chiots pour faire un gros manteau.
Il devait être lettre en plus, le manteau. C'est ça.
Ben, en fait, le manteau, oui, il mais... pas... spoiler alert, là, mais elle n'a pas son manteau.
Puis, okay. Autre spoiler alert, Milter, c'est un film.
Ouais, non, mais l'idée, pareil.
Ça fait pas toujours du sens, un film. Et sinon, comment finir par une vilaine que je pense que beaucoup d'hommes auraient aimé être la cible de Sharon Stone dans Basic Instinct?
C'était pas ça qui a tué le gars à coup de pic à glace?
Oui.
Je m'en serais passé.
Ouais, mais il y a bien des gars qui auraient bien aimé être dans la salle d'interview là, quand à spread it. Comme Chuck qui spread des fois, ben ouais. Sharon Stone la spread aussi des fois. Donc, qu'est-ce que ce serait aussi...
Je suis pas sûr comment je me sens à propos de ça.
Si on parle de vilain, on va parler de super-héros, parce qu'on s'entend le arch nemesis, comme on dit en bon anglais, est né un peu justement de l'histoire des gentils, des bons, le héros et le méchant. Donc, on s'entend, l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment est une ère de films de super-héros, que ce soit des films de DC et des films de Marvel. Avant de rentrer dans la catégorie, j'aimerais amener de quoi un peu aux yeux de nos auditeurs et de ceux qui sont parmi nous en ce moment. Les films de MCU en ce moment kickent le cul de tous les films de DC en termes de qualité et tout. Par contre, la critique récurrente de tous les films de Marvel, c'est qu'ils n'ont pas des bons vilains. À chaque fois qu'on entend, ils disent « Ah, le film est bon, mais les méchants sont toujours un peu faibles. » Ça s'est replacé récemment avec Avenger et Black Panther. Mais sinon, par avant, c'est un peu le côté faible. On n'a qu'à penser à Iron Man. Ça en est un exemple frappant. Par contre, DC, eux, sont juste poches, leurs films. Mais historiquement, ils ont des vilains excellents. On va en voir avec la liste ici.
Steppenwolf était mental.
The Joker, Dark Knight, Heath Ledger, selon moi, est un des excellents méchants de films de super-héros. The Joker, encore une fois, mais Jack Nicholson dans The Original Batman. Suivi de près par Danny DeVito, qui est un excellent pingouin, qui est fucking dégueulasse, mais qui est excellent. On tombe maintenant, il fallait que je donne un peu de love à mes amis de Marvel. Le meilleur film de Marvel pré-MCU, Spider-Man 2, Alfred Molina, Dr. Octopus, qui est excellent. Et je pouvais pas ne pas mettre Ian McKellen, Magneto, en tant que méchant, qui est quand même très bon, même si je le trouvais un peu vieux à mon goût.
Qui ça?
Ian McKellen, le premier Magneto.
Magneto.
Ah,
okay.
J'aimais bien justement l'espèce de côté, comment je pourrais dire, pas spirituel, mais très il réfléchissait énormément, très intello, qu'il y avait dans le personnage, justement, puis l'espèce de combat d'esprit qu'il y avait avec Patrick Stewart. Et je dois dire que le nouveau Magneto, qui est par le doute d'Assassin's Creed, que j'ai oublié tout le temps.
Le jeune Magneto.
Oui, Fassbender, lui, je ne suis pas capable. Ah non, on dirait qu'il est juste là pour faire titiller l'entrejambe des dames parce que tout le monde le trouve sexe, là, puis c'est tout. Là.
Tabarnak, t'es donc bien agressif aujourd'hui.
Guillaume, je sens beaucoup de connotations sexuelles pour un gars qui s'est adonné avant le début
Guillaume, c'est un gars
de
héros. Fait que c'est pour ça que tous les vilains, il y a comme une.
C'est vrai qu'il est frustré de faire cette liste-là. Là.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais là, on va tomber dans la partie un peu plus comic relief, on pourrait dire, tu sais, qui fit bien avec le manifeste. Genre, les héros les plus décevants. Les héros qui nous ont laissé tomber dans l'histoire du cinéma. Le premier est un peu, je dirais, ambivalent. Certains disent que c'est un héros décevant, certains disent que c'est un héros incroyable. C'est Marlon Brando.
Mais c'est un héros ou un méchant?
Un méchant, excusez-moi. Okay. J'ai un petit lapsus.
J'étais mélangé.
Oui, oui, un méchant anti-héros, en tout cas. Donc, le colonel Walter E. Kurtz dans Apocalypse Now, je crois que c'est un méchant à chier parce qu'il est juste gros, suintant sur un trône en je sais pas où, là, au Vietnam. Puis ça a l'air que le gars, c'est un asshole en plus dans le tournage. Fait que ça fait comme un peu vivre son système de mauvais.
L'humain derrière le personnage est une merde.
Ouais. Dans le fond, tout son rôle, c'est un B-roll de 2h15.
Genre, mais encore là, on s'entend le film dure 2h30, puis lui, je pense qu'il est sur l'écran. Je pense faudrait que je le revisite, le film, mais genre 10 minutes. Là, tu sais. Voldemort. Voldemort est un des pires héros, un pire vilain, par contre, de film. D'où tu as juste checké à la face. Ça explique tout. Je veux dire, tu es supposé être menaçant, puis je te vois, puis je pars à rire. Je me dis, non. Ça marche pas.
OK.
ensuite, je voulais faire une liste à l'unité, mais je pouvais pas. C'est que j'ai fait tous les vilains de Batman de Joel Schumacher. C'est que tu sais, tout ce qui est dans Batman Forever puis dans Batman and Robin. Mettez-les tous dans un ensemble. Envoyez-moi ça à Guantanamo.
Le côté
de Batman.
Wow, là.
Moi, j'y trouve écœurant, en plus. Les
ouais,
gars
c'est
qui...
le Mr. Freeze, c'est un des meilleurs personnages.
Oui, mais ils sont bons par son cringe puis son mauvais. Ils sont bons dans leur... Dans leur.
Fait que son
ouais, mais c'est Batman and Friends là, qu'on est en train de faire. Là. C'était pas Dark Knight. Là.
Ensuite, Lex Luthor de J.C. Eisenberg, encore une fois.
Ouais, ça, je suis d'accord. Il était vraiment
j'ai failli mettre Kevin Spacey.
Tu pourrais dire, en fait,
Lex, de Lex Luthor.
Dans toutes les films. Dans
mais le Gene Hackman était quand même pas
spécial. L'acteur était bon, mais il était pas smart. Il faisait
des moves stupides. On a le vilain qui a eu la plus grande dérape de l'histoire du
Kevin
cinéma.
Kevin Spacey, oublie pas Kevin Spacey.
Ouais, ben, je voulais pas le mettre parce que, tu sais, Kevin Spacey est trop. Il faut toucher de ce temps-ci. Il ne faut pas toucher à ça dans les
faut plus le mentionner, Kevin Spacey.
Ensuite, on avait le vilain qui a eu la plus grande dérape de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'il est passé du plus fucking awesome vilain au worst excuse of a villain. C'est l'agent Smith dans La Matrice. Donc, La Matrice 1, on avait un vilain qui était débile, qui a eu une fin écœurante quand il explose en code. Mais il revient après
spoiler,
ça
Guillaume,
en 2 puis dans le 3, qui est une espèce de bad CGI joke of himself.
Tu peux même ajouter l'architecte comme étant un vilain assez décevant.
Ouais, mais tu sais, il y a quoi, 10, 30 secondes de screen time?
Ouais, ben tu sais, il est responsable pour fucking.
Et finalement, le pire film, ou j'aimerais dire à égalité, un des pires films de l'univers Marvel pré-MCU, on a Venom dans Spider-Man 3, grâce aussi à Topher Grace. J'aurais même pu mettre Tobey Maguire dans
Topher Grace, c'est le gars de That 70's Show. Hein?
Oui. Et qui est comme. Je pense qu'honnêtement, il est la même shape que moi j'avais à 16 ans, c'est-à-dire genre 5 et 10, 11, 6 pieds, 160 livres quand que j'ai mangé comme un porc. Là. C'est qu'il est comme pas crédible en Eddie Brock, qui est supposé être un Jack Beef.
Joueur de football, style. Exact. Là, c'est le physique de lutteur.
Donc, mais en fait, tout Spider-Man 3 au complet pourrait être vu comme un méchant vilain qui ne devrait pas mériter d'exister. Anyways, je dérape. Mais tout ça, malgré tous mes couteaux qui volent bas et haut, je dois finir avec des mentions spéciales parce que les vilains, l'histoire du cinéma ne serait pas celle, ce qu'elle est maintenant sans des vilains de qualité, sans des vilains qui ont marqué notre enfance. Je pense au Principal Ed Rooney, le directeur dans Ferris Bueller's Day Off, qui est un excellent méchant, mais qu'on adore voir être maltraité.
C'est aussi le méchant de
Howard the Duck, man.
Il a tellement mis d'efforts dans son personnage à arriver, mais tu sais, on a de la peine pour lui. Dans la même lignée, on a Harry and Merv. Ça, c'est les deux méchants dans Home Alone.
Les voleurs.
Stern, oui, Howard, c'est quelque chose, Stern puis Joe Pesci, en fait, les deux méchants.
Sont des victimes, dans le
c'est fond. Des victimes, mais c'est des vilains, c'est mais on prend pitié d'eux.
Ils
se font
battre pendant 2 heures.
Tout est
torturé par un enfant. Tu sais.
On a ensuite Loki. Dans l'univers MCU, qui est un méchant, vraiment méchant, mais qu'on apprend à aimer, puis qui est comique, puis que j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu les derniers films. Et finalement, le méchant qui m'a fait découvrir les méchants, Prédateur. De Prédateur. Oh. Le Prédateur dans Prédateur, qui est un espèce de méchant qui est un emblème, qui est un symbole, qu'on voit pas trop, puis qui est débile. Moi, je me rappelle encore de mon petit moi de genre 14 ans, 13 ans, qui voit ce film-là à TVA en après-midi.
Tu sais,
quand TVA passait des films à 14h le samedi, de genre-là, puis t'es comme, il enlève son masque, puis tu fais comme. OK. Je sais le fait que je mette ma main devant mes yeux. Mais en effet, le Prédateur est selon moi un emblème de ce qui est un vilain. Puis on s'entend, il n'y a pas besoin de parler beaucoup, il n'y a pas besoin d'être là souvent, mais il représente énormément. Et un qui n'a pas fait ma liste, puis que je suis triste, parce que j'ai complètement oublié.
Il avait de le faire là.
Il va la faire, puis je la rajoute. mon petit côté éditorial que je rajoute, parce que c'est un clin d'œil qu'on a eu dans la dernière bande-annonce de Creed 2, c'est la Russie.
Ivan Drago.
La Russie est, selon moi, le vilain le plus représentatif de l'histoire du cinéma.
La Russie, Russie au sens large?
La Russie au sens large. L'Union soviétique. Vilains, mais, c'est correct, mais Ivan Drago. Ivan Drago est celui qui était venu en tête, dont son fils qu'on va voir dans Creed 2. Mais après ça, j'ai pensé à Chuck Norris. J'ai pensé au film de Arnold. J'ai pensé au film de Steven Seagal. Puis j'ai fait Chris, c'est la Russie.
C'est vrai que la Russie, fait, quand c'est la comme Russie, une industrie.
C'est le USSR, CCCP,
vilain générique.
Mais là, je suis curieux, là, justement, parce que là, Eric, tu mentionnais toi, que tu avais la Russie. Là, je serais curieux, tu nous as préparé quoi, toi, Eric?
J'avais une couple de noms sur la liste. Guillaume, il les a déjà couverts.
Comme la Russie.
C'est qui est next?
Il y avait 20, il y avait 20 minutes de gens.
Oui, j'avais compris, passer à la POC. J'étais juste encore étourdi de tout le chiage que Guillaume m'a fait.
Il y a juste 20 minutes
des méchants
de noms
bien
russes
corrects,
sur sa liste.
T'es-tu sérieux? Il y a une liste de 20 minutes de noms russes?
Moi, que je comprends, c'était pas les vilains canadiens anglo-franc-canadiens.
Merci de voler mon punch, mais oui, c'est ça.
OK, j'essaie de faire le lien avec les noms
mais
russes.
Je suis en train de me rendre à ça, Guillaume.
Allons-y!
Bon, on fait quoi? Comme excuse-moi. On sait, je suis le français canadien de la gang, ici. Puis on a parlé un petit peu des vilains qu'on voulait parler d'eux. plein de mes vilains préférés de l'histoire du cinéma puis de la vie, Guillaume vient de chier dessus, puis je me suis fermé à gueule. Fait que ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai décidé, j'ai fait une petite liste d'une couple de vilains que peut-être des gens vont se rendre compte, puis j'ai une couple de mentions spéciales, mais j'ai vraiment été élevé sur la télé canadienne, moi. La télé canadienne, anglaise, beaucoup de la télé américaine aussi, il faut dire, mais il fallait vraiment que je creuse pour mes coups de cœur canadiens.
T'écoutais-tu les Télétons PBS des fois?
J'ai déjà tombé sur des Télétons et cette pile-là.
Est-ce qu'ils sont sur ta liste?
Non, mais ils devraient l'être.
Mais Éric, qui répond
j'ai besoin, j'aurais une question pour toi.
Oui, oui.
En tant que Québécois, franco, pas trop...
En tant que Français canadien, oui.
Québécois, oui. Qui n'a pas trop été, introduit ou qui n'a pas trop consommé la télé canadienne-américaine. Hein? Moi, j'ai souvent entendu dire...
Ah, OK.
Oui, moi, je parle de moi.
Okay.
J'ai souvent entendu dire que la télé canadienne-américaine n'existait pas vraiment, que c'était juste, dans le fond, des reruns des Américains. C'est-tu vrai?
Ben non, c'est pas vrai du tout. Puis en plus de ça,
c'est un peu
mieux que juste des concepts volés des États-Unis. Là.
Ah, OK, c'est bon. Mais juste pour être sûr
une
que je parte...
jab à télé québécoise. Bon. Fait que je vais commencer avec un film. Puis je voulais commencer avec un des premiers méchants qui me mind-blown quand j'étais kid. Un des plus grands classiques canadiens. Deux personnages de Second City. Je t'entends pas mon... t'as les frères McKenzie. Fait que les frères McKenzie, si on les connaît pas, c'était Rick Moranis. C'était Rick Moranis, puis un autre acteur, j'oublie son nom. Mais il avait fait un show, c'était assez drôle. C'était comme un Wayne's World, mais de deux hosers canadiens qui buvaient de la bière puis qui disaient de la merde tout le temps. Puis c'était quelque chose de vraiment fucking drôle. Puis ça, c'était un skit de Second City, mais c'était tellement populaire parce qu'ils faisaient des tournées qu'ils ont eu une deal pour faire un film, puis ils ont eu de l'argent pour faire un film, puis Saint-Sacrement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? C'est assez mental.
Même eux autres, ils ne savaient pas.
Même eux autres, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Puis ils ont vraiment fait le synopsis de leur film, c'était assez simple. C'était Doug et Bob McKenzie ils ont plus d'argent pour s'acheter de la bière. Fait qu'ils se décident, on va mettre une souris dans une bouteille de bière et on va aller au beer store, puis on va aller leur dire... Il y avait une souris dans ma bière pour se pogner une bière gratuite. Mais finalement, au lieu de pogner de la bière gratuite avec ça, ils se font dire qu'il faut qu'ils dealent avec la brasserie directe. La brasserie... Oh, attends une seconde, excuse-moi. La brasserie, c'est Elsinore. Puis ils ont dû retourner à directement à Elsinore pour dire qu'ils ont trouvé une souris. Finalement, ils pognent une job de faire sûr que la bière est correcte. Et voilà le méchant. Le méchant, c'était Brewmaster Smith. Je vous présente le plan de Brewmaster Smith. Quand j'étais kid, je comprenais rien, mais c'était magnifique. Fait que les deux frères ont découvert que le Brewmaster Smith venait de tuer M. Elsinore, l'original, OG. Le tuer pour prendre contrôle de sa business, pour infecter toutes ses bières d'un mind-controlling substance qui fait tout le monde devenir docile et qui peut gérer avec un piano. Fait que quand tu jouais de la musique, tu pouvais gérer et contrôler le monde.
And c'est deep.
Puis, Doug et Bob, ils ont découvert...
C'est comme le Zoolander, ça.
Doug et Bob, ils ont découvert ce plan-là et ils ont décidé de briser ce plan-là. Puis ils réussissent pas à le briser, en fait. Ils font fuck all. Puis c'est le fantôme de Elsinore qui tue le méchant avec un éclair. Et à la fin, ils découvrent que la bière s'en va quand même au Oktoberfest pour... contaminer tellement de monde, puis ils ont un chien qui s'appelle Hosemeister. Puis ce chien-là, out of nowhere, décide de devenir Superman, puis il va sauver le monde. Anyways.
Attends, c'est un film, ça?
Ça, c'est un film.
C'est pas un trip de LSD,
c'est
là.
C'est un film très populaire.
Avec Rick Moranis.
C'est un film qui est un gros box-office hit. Les frères McKenzie. Non, US. C'est un box-office hit US. Puis c'est ça, le chien était mental, tout ça, c'était fou. Mais Brewmaster Smith... Callis qui était weird, puis c'était un des premiers méchants, genre canadien un peu. Je veux voir tout ce qui se passe à Toronto aussi, tu sais, puis c'est un peu drôle pour
tout,
ça.
Ce film a tout pour plaire.
Oui.
Moi, j'aime que dans cet univers-là, les fantômes pitchent des éclairs.
Oui, mais ben, en plus, dans le film, là, quand tu vois cette scène-là, c'est Strange Brew, ben oui. Ah, mais ben, j'ai même pas mentionné le nom du film, hein. C'est ça, ouais, c'est Strange Brew.
Dans le fond, Rian Johnston a vu Strange Brew avant de faire The Last Jedi.
Hein?
Ben oui, pitch un fantôme qui pitche un éclair.
Ouais, mais c'est pas pareil, ça.
L'empereur Palpatine.
Ça, c'est un Jedi.
C'est correct, Rick.
Excuse-moi, j'embarque pas. Bon, Mais là, je voulais parler aussi de d'autres choses que j'avais des vilains, mais des vilains plus généraux. Nous autres, en Ontario, on a un show, ça s'appelait The Littlest Hobo, qui starait London, un berger allemand vraiment écœurant, qui sauve, qui faisait plein d'affaires cool.
Pas le fucking vagabond, là.
Le petit vagabond, ouais.
Fait que ça existait au Québec, ça aussi?
Ouais, on appelait ça vagabond.
Ouais, le berger allemand, là, puis il se promenait, puis il allait d'une ville à l'autre.
Mais le pire,
là,
c'est que The Littlest Hobo, il s'appelle juste Hobo.
C'était pas québécois, ça.
J'ai juste fait une liste. J'ai fait une liste de les... Tu sais, quand on parle de vilains, je voulais juste parler des méchants dans un épisode, tu sais. Puis il y en a beaucoup. J'ai juste fait une liste. On va commencer facile. Il a démantelé une couple de mafias, mais des petites mafias de petits villages... Il atterrit ça un peu weird.
Il y a un berger allemand qui a démantelé un cartel mafieux dans un village.
Ouais, mais du dealage, de ben, du smuggling.
C'est comme le club école de la mafia parce qu'ils n'envoient pas leur top là-bas là, dans le petit village.
Il a vaincu l'ennemi de la peur d'un père que comment je pourrais expliquer cette histoire-là? Fait que t'as un kid qui est paraplégique qui rencontre Hobo. Puis Hobo, il lance un frisbee. Puis le kid paraplégique, il se rend compte que lui et Hobo, ils ont une connexion en se lançant du frisbee.
C'est fait un chien.
Le chien, pour une raison ou une autre, le fait comprendre avec un pamphlet qu'il tient dans sa bouche qu'il y a une compétition de lançage de frisbee. Puis, tu sais, le kid, il est comme, ah, c'est une bonne idée, ça, comme s'il a communiqué avec London. Puis, Hobo, c'est un acteur. London, c'est l'acteur. Puis, son père, il veut pas qu'il fasse ça. Parce que son père, il a une peur de chien, d'interaction de chien, parce que son enfant, il est dans une chaise roulante à cause qu'il a évité un chien dans une rue en char. Ça a tué sa femme.
Ça, c'est comme
ça
la
rendu
c'est
son
comme
kid paraplégique.
C'est bien deep.
Pendant qu'il essaye de
tout
faire
ça
partie...
en 22 minutes.
Oui, c'est ça. Pendant qu'il essaye de faire... Pendant que le kid essaie de le convaincre de faire partie du tournoi de frisbee, ben London... Hobo, il sauve la vie. Puis là, son père, il voit l'erreur de ses manières. Puis il est comme, des chiens, c'est correct.
Puis après ça, la fondation Mira est née.
C'est quoi tu veux qu'il arrive à ton fils? Il est déjà paraplégique. Là. Il peut pas... Ça peut pas être pire, ben s'il participe
vilain,
à la compétition.
Le vilain dans ça, c'était la peur. Il y a un trappeur. C'est un de mes préférés.
Le chien, il a vaincu la peur.
Oui. D'un homme qui...
C'est comme elle-même. Fuck.
Un de mes coups de cœur de méchant, c'est un trappeur qui utilisait des traps inhumains. Inhumains.
Petit braconnier, ça.
Mais j'aimerais spécifier qu'il y a plein de traps qui étaient bien corrects. Mais les traps où ce que l'animal restait pris, enfin comme ça... Hobo, il l'a fait se faire pogner à utiliser ces trappes-là. Puis, ben, il a appris sa leçon, puis il utilise des trappes qui tuent plus vite.
Attends, c'est quoi le...
Mais vive là, les années 80, hein?
Le chien a convaincu...
Le chasseur...
Non, le chien a genre alerté un ranger de ses pratiques.
OK,
tu sais, en Japon, la scie.
Oh. Ça me fait vraiment penser à Skippy, cette affaire-là, moi, pareil.
Ouais, c'est ça. D'autres, c'est pas fini, le Hobo. Il en a fait
pas
mal.
Je pense qu'il y a des pouvoirs mentaux, ce chien-là.
Des escrocs, tu sais, des conmen. Ça, il y en a une dizaine. des conmen qui essaient de voler des petits vieux dans des maisons de retraite.
Des fraudeurs.
Ben, tu sais, le robot, il a figuré des choses comme ça.
Comment il fait pour comprendre que c'est une fraude, genre, qui se passe? C'est un chien.
Ouais.
Il l'a senti.
En faisant un petit retour sur le URSS de Guillaume tantôt, une couple de fois, il vainc le communisme.
Quoi?
Avec des... Avec un de mes épisodes préférés que je me souviens quand j'étais kid. Hey, en passant, je vais retourner vite fait. Le kid qui lance le style de frisbee, là, son meilleur ami, c'est Mike Myers. Mais ça, c'est une autre histoire, ça.
Dans le show?
Dans le show, oui.
OK. Ah, oh, il est Canadien, c'est vrai.
Ouais. Ben là, le communiste, c'est une ballerine qui décide de s'en aller. Ça, c'est en fait un thème de bien des films, puis des séries, puis des livres, là, où tu as les ballerines qui viennent en tournée ici, puis t'en as une
ouais.
couple qui veut s'enfuir. Il y a un excellent film de Robin Williams qui joue un Russe, j'oublie le nom, où ce qui joue un stagehand d'une bande russe puis il décide de se sauver. Anyways, Hobo sauve la ballerine de pouvoir rester loin de les méchants URSS dudes. Puis l'affaire...
Parle d'un berger allemand.
Oui.
OK.
Puis aussi, le vilain le plus important que Hobo réussit à vaincre quasiment un épisode sur deux, c'est la mort. Parce que sacrament, est-ce qu'il sauve du monde, ce chien-là? Il alerte, il sauve des bébés, il sauve des mères, il sauve des parents.
Tu dis il alerte?
Il sauve des
il alerte.
Il alerte le monde
okay.
pour...
OK.
Yalette.
Yalette.
Ouais, ben, écoute, je suis sûr qu'il l'a fait.
Yalette, le monde, pour les sauver.
Fait quoi? Ouais, fait que là, j'ai ça. Je voulais parler de des méchants. Il y a des shows que ça, il y a un show qui s'appelait The Edison Twins. Je sais pas si vous connaissez ça.
Ça me dit pas,
donc. C'était des twins, puis leur petit frère, crotté puis gosseux. eux autres, ils figuraient tout le temps une manière de, genre, prouver à du monde qu'ils sont en train de faire des affaires néfastes pour l'environnement. Puis ils combattaient tout avec la science. C'était vraiment hot. Il y a Danger Bay, qui est un excellent show qui était tourné à Vancouver, où ce que eux autres, le méchant courant, c'était la pollution. Puis des gens méchants qui chassent des baleines, des affaires comme ça.
Fait que c'est la version canadienne de Captain Planet,
dans le fond. C'était vraiment le père, il vivait sur une île dans Danger Bay. Tu peux juste te rendre en bateau, puis c'était un gars qui... Le monsieur était en charge de la place d'océan à le Vancouver.
Fait qu'eux autres, ils polluaient.
Lui, il était le conservationniste. Je ne sais pas comment c'est que tu dis.
Conservateur, non?
Conservateur, oui.
Ah ouais, on va dire ça.
En tout cas, lui, il sauve du monde. J'aimerais faire un petit shout-out à Cyril Sneer. C'est le méchant aardvark, capitaliste, qui est juste businessman.
Cyril Rictus.
L'inspiration pour...
Monsieur Burns.
Monsieur Burns, carrément. C'est carrément le premier Monsieur Burns. C'est un aardvark rose. J'ai jamais compris pourquoi, mais... Puis je sais même pas pourquoi que c'est un aardvark. Moi, en passant, les raccoons, j'ai pensé à ça, là, mais j'ai pas découvert ça par télésérie, j'ai découvert ça par des spéciaux de Noël. Ça a commencé avec des spéciaux, les ratons laveurs, que tu pouvais louer en cassette, mais ils ont fait une télésérie une couple d'années
plus tard. On appelle ça les amis ratons, Eric, ici.
Oui, les amis ratons. Québec, c'était les amis ratons.
Il y avait des petits crayons Furt aussi, eux autres, qui étaient bien populaires quand j'étais au primaire, là. Les petites boîtes, puis là, il y avait une boîte qui pouvait repasser avec du blanc dessus, puis ça changeait.
Ça devait être sur Québec Loisir.
C'est-tu que tout le monde capotait, là?
C'était ça, ou les crayons qui sentaient quelque chose?
Tu pouvais les acheter, ah, maman était abonné à ça.
Oui,
encore abonné à ça.
Oui, André, sur le website de Québec Loisir en 1988.
Non, par le website, je veux dire le catalogue.
L'espèce de fiche de carton que tu découpais dans le TV Hebdo, là.
C'est ça.
Ma liste s'achève un peu, mais j'aimerais ajouter le nom.
Mais attends, savoir ton affaire de polluage, là, de monde, là. C'était-tu Touffe et Polluard, ça, en français?
Non, c'était vraiment un show live action.
Ah, c'était du vrai monde,
ça, c'était pas des cartoons, là.
Oh. Après ça, j'ai My Secret Identity, qui est un show canadien avec Jason O'Connell, qui était un petit kid qui s'appelait Derek McGraw, qui a eu des super pouvoirs par son voisin scientiste de cave weird, qui était weird, puis qui faisait des expériences, puis finalement, il a donné des super pouvoirs à cette kid-là. Puis tout ce qu'il figure à faire avec ces super pouvoirs-là dans toute la télésérie, c'est de soit secrètement vaincre une gang qui vole des affaires, ou aider des jocks à arranger leur char, puis après ça, boire de la bière avec eux autres, puis se rendre compte que boire de la bière, c'est méchant.
Fait que le méchant de cette émission-là, c'est la bière.
C'était juste des thugs méchants.
L'alcoolisme chronique.
T'es carrément un kid avec des super pouvoirs qui fait fuck all avec, à part de voler des fois, puis de se tomber dans des situations qui ne devraient pas l'être. Mais ouais, ça, c'était un petit peu weird. Le Dark Heart de Care Bear, c'est un de mes plus grands coups de cœur de méchant.
C'est-tu canadien, ça?
C'est-tu? Comment ça s'appelle en français?
Moi, j'aimais ça que c'était... Dark Heart en anglais, c'était cœur dur en français. Je sais pas pourquoi.
C'était Hard Heart.
Okay. Hard Heart, ça, c'est ça.
Pendant que tu es sur ça, peut-être toi en anglais c'était différent, mais c'est quoi la différence entre un calinours et un bisounours?
Ben, les bisounours, c'était les animaux.
Ah, oui, exact.
C'était les cousins.
Parce qu'à un moment donné, c'était juste des ours, puis là, ils ont amené les éléphants.
L'équipe
de marketing est intervenue.
Ouais, ils ont multi-brandé, là, maintenant.
Ils ont multi-brandé, puis t'avais le lion.
Il n'y avait pas le choix, les popples étaient sortis, puis les ventes tombaient.
Puis pour terminer, un grand classique pour moi de la télé canadienne, qui est devenu quand même big, je trouve, avec la deuxième génération aussi, mais c'est dans Degrassi. Degrassi, il y a bien des méchants vraiment fucked up de l'adolescence, comme le teen pregnancy, le sida, toutes les choses comme ça. plein d'affaires comme ça. Mais le plus gros vilain de Degrassi qui m'a vraiment marqué à la vie, c'était l'alcoolisme avec Wheels. Puis si vous connaissez les Degrassi originales, ben on avait Wheels qui était le petit kid qui était élevé un petit peu des parents comme pas vraiment là. Puis à la finale de Degrassi, puis je te dis, là, après 5 ans d'investir ton temps dans ces personnages-là comme kid, à la fin, ils sont en train de graduer le secondaire. Puis même, je dis 4-5 ans, mais c'était plus que ça, parce que bien des acteurs, j'y suivais. Avant, il y avait Degrassi Street, il y avait Degrassi Junior High, puis après ça, il y avait Degrassi fucking High. Fait que moi, il y avait un long parcours, pas de Drake en passant. Puis à la fin de tout ça, quand il gradue le secondaire, man, Wills, il est sur la brosse, il décide d'aller chercher des choses. Les gens sont comme, ah, ben, bois pas, Wills, va pas, t'as bu. Ils sont dans un chalet, puis Wills, il s'en va. Puis naturellement, accident de char, tue une famille au complet. Asti de gros bémol pour finir de Grassy High. Mais pour moi, quand j'ai vu ça quand j'étais kid, ça m'a quand même marqué de voir ça. Puis c'est ça que j'ai toujours aimé de Degrassi, surtout les originales, c'est que tu avais des grosses Christie de leçons de vie hard que tu voyais nulle part d'autre, puis que je pense qu'on voit même plus maintenant. Ils ont peur de parler de bien des sujets. Puis dans celle-là, ben l'alcoolisme puis drunk driving, ouais. C'était un des plus... Drunk driving demeure un des plus gros ennemis puis vilains.
Moi, j'ai une question, Eric. Oui, j'ai parlé beaucoup de séries canadiennes, tu as parlé de Vancouver, mais... Moi, j'ai pas une grosse culture, honnêtement, télé-canadienne. Genre, correct, genre de Secret World of Alex Mack, là, que j'ai eu mes premiers fantasmes là, en pré-ado.
Ça,
là.
C'était avant qu'elle recrute du monde pour son culte sexuel. Hein?
Non, ça, c'est l'autre Alison Mack.
Ah, OK, excuse.
Mais Dawson Creek, là, je n'ai entendu parler comme
mais c'est pas canadien,
fois.
Ça.
C'est pas canadien?
Mais non. C'est tellement pas canadien. Ça, c'est comme...
Je pensais que c'était canadien, passé à Vancouver puis tout.
Mais non, mais c'est parce que... Non, mais attends,
les séries américaines sont filmées à Vancouver.
Parce que beaucoup de séries américaines sont filmées à Vancouver.
Non, mais moi, j'étais sûr que c'était comme Canadian stuff, là.
Non. Dawson's Creek, c'était pas Canadian stuff. En passant, checker Lucky Logan, man. Katie Holmes était cœurante là-dedans.
Hey, merci.
Toujours aussi hot.
C'est intéressant ce que tu dis, par exemple, parce que... Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à regarder un peu du vieux stock. Tu sais, je suis allé fouiller un peu. J'ai clairement pas la même matrice que Guillaume dans son analyse.
Guillaume, il en a sûrement touché une ou deux de tes ennemis, c'est sûr.
Je pense que oui, mais en réalité, je suis allé un peu plus deep que ça. C'est que j'ai revisité des films, des jeux, des séries, des affaires de même pour aller me réapproprier des méchants qui m'avaient marqué quand j'étais jeune. Fait que je me rends compte que je vieillis puis j'ai peut-être plus la même interprétation de ces films-là en vieillissant que j'avais quand j'étais jeune. Tu sais, genre Le Destructeur avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Fait que je réécoute Le Destructeur puis là, je me souviens, tu sais, le méchant, c'est Wesley Snipes. Il se fait décongeler pour aller exterminer les rebelles, tout le kit. Puis finalement, je finis le film puis je me dis, c'est pas Wesley Snipes le méchant, c'est Dr. Raymond Cocteau qui est le gars qui dégèle Wesley Snipes. Parce que ce gars-là, son plan, c'était de dégeler le pire criminel tueur de toute la vie pour aller anéantir les rebelles en lui donnant des assets qu'il n'avait pas avant de se faire congeler. Puis lui, dans sa tête, son délire, c'était il va arrêter aux rebelles. Il va crissement pas scraper le gouvernement, tout le kit.
Ben ouais.
Fait que, tu vois, juste là, il y a eu un disconnect entre ma jeunesse où, tu sais, c'était clairement Wesley Snipes. Puis là,
il n'a pas poussé sa réflexion.
Il y a un message, tu sais, caché dans ce film-là. Puis là, j'ai catché. Tu sais, le vrai méchant, c'était lui, tu sais, la cause fondamentale. comment tu dis ça? Exactement. Il y a plein d'affaires, justement. Tu vois, fait que le teen pregnancy, dans le fond, eux autres, ils ont trouvé un moyen de l'enlever parce qu'ils font l'amour par la voie mentale avec des machines weird.
Je me suis toujours senti mal
dans cette scène-là,
pour
hein?
Sylvester Stallone ouais. Dans ça parce que j'étais comme « fucking le plus gros cock tease dans l'histoire, là ». Fuck, c'était rough, là. Puis moi, j'avais comme 13 ans, là, en train de regarder ça au cinéma.
Non, mais me semble...
Moi, Sandra Bullock, je commençais à la découvrir, là, c'était post-speed. Puis là, t'as Sandra Bullock vraiment à son plus hot. Puis t'as ça, là. Oh my God, pauvre lui. Blue balls!
Merci à l'autobus qui vient de passer à côté.
Fait qu'on a Le Destructeur. Après ça, je suis allé revisiter un film des années 80 qui, pour moi, avait un des pires ennemis publics numéro un là-dedans. Donc, je vais vous lire le synopsis. C'est Larry Wilson puis Richard Parker qui sont deux employés d'une compagnie d'assurance qui travaillent pour leur patron, M. Lomax. Ils découvrent une fraude, puis finalement, c'est leur boss qui est en arrière de la fraude. Mais le boss, dans le but de leur faire taire, il les invite à sa villa dans les Hamptons pour une fin de semaine. Donc, bien sûr, je parle de Weekend chez Bernie. fait qu'en réalité, eux autres, ils découvrent que Bernie, il est en train de faire une fraude d'assurance. Fait que Bernie, il s'arrange avec ses chums mafieux pour leur faire la passe, puis etc. Fait que, tu sais, quand t'es jeune, t'écoutes ce film-là, tu dis hey, « les mafieux, c'est vraiment clairement les méchants de ce film-là », puis tu le quittes. En le réécoutant maintenant, j'ai eu d'autres concerns qui sont venus un peu plus me chercher, du genre que Larry puis Richard, ils chillent pendant une semaine avec le cadavre de leur boss mort, puis ils se posent aucunement de questions tout au long du processus. Fait qu'eux autres, ils se promènent avec, puis...
À partir de combien de temps ça commence à sentir, un cadavre?
Ben, OK, tu vois, clairement, dans les années 80, c'était pas un concern.
Parce qu'il y a eu un sequel.
Ben, il y a eu un sequel, oui, non, mais c'est écœurant, tu sais. Fait En plus, tu sais, je me suis rendu compte que dans l'échelle des valeurs et de la morale, ben Richard, il trippe sur sa collègue de travail qui vient les rejoindre. Fait qu'il décide d'y cacher que leur boss est mort. Puis il prolonge le mensonge tout le long. Fait que clairement, eux autres sont pas bien dans leur tête. Puis j'ai clairement pas interprété ce film-là de la bonne façon la première fois que je l'ai écouté. Un autre enjeu un peu plus social. Dennis Nedry voulait voler des embryons de dinosaures pour les donner à une compagnie différente. Clairement, regarde, sa motivation, c'était le cash. Fait que quand John Hammond, il a dit « j'ai dépensé sans compter », il a clairement pas parlé de bonne pratique RH. on s'entend, ça, c'est le point culminant du film. Tout a chié parce que le gars voulait voler des embryons de dinosaures puis il a scrappé le parc.
La nature aussi est un peu l'ennemi là-dedans.
Ben, oui, mais,
la tempête,
oui mais pas tant que ça parce que c'est vraiment lui qui a comme scrappé le système. Il a lock-out tout le monde. Tout le monde aurait pu survivre. Là.
Mais s'il n'y aurait pas eu la tempête, je pense qu'il s'en aurait sauvé.
Ben, exact. Ouais. Fait que tu sais, à la limite, donnez-y une augmentation salariale. Je sais pas. Chris, donnez-y un fonds de pension.
Un bon plan d'assurance.
Il a fait le meilleur screensaver ennemi au monde.
Oui, 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 exactement. un autre méchant que j'avais pas trop catché, puis que lui, je voulais juste le mettre là-dedans pour l'aspect campy, un peu le LOL. Mais dans Superman IV, Quest for Peace, en 87, ben Lex Luthor, il fait un clone radioactif de Superman qui s'appelle Nuclear Man, pardon. Nuclear Man, son seul move qui fait mal à Superman à un moment donné, c'est qu'il griffe avec ses ongles radioactifs qui brillent dans le noir. c'est la seule passe qui réussit à faire mal à Superman.
On pourrait quasiment dire que ce film-là au complet est le vilain.
Ben, ce film-là, c'est une aberration de la nature.
C'est le vilain c'est horrible, de la série, genre.
Un autre méchant qu'on s'attendait clairement pas à ça, puis il est à deux niveaux celui-là. J'ai réécouté The Happening de M. Night Shyamalan.
Ah, je viens d'en parler. Good call.
Fait que le
Good
méchant call. De ce film-là, c'est les plantes. Fait que là, les plantes décident de se rebeller, puis ils relâchent une genre de toxine qui force les humains à se tuer. Pis crise de film La Création, puis c'est un méchant à deux niveaux parce que, selon moi, j'appelle ça la théorie du point Shyamalan. En réalité, c'est que ce gars-là est le dernier gars à s'être fait financer un scénario original. Puis c'est la raison, selon moi, pourquoi maintenant Hollywood est pris dans un circle jerk de remake. Parce qu'ils font des remakes de valeur sûre, parce qu'ils ont donné un budget à ce gars-là, puis il a fait une merde de même.
Ben, il a quand même fait des...
Il est en train de revenir un peu, là.
God forbid.
Les jeunes, ils le connaissent pas.
Ouais, OK, je donne celui-là.
Unbreakable,
il y a le film des petits vieux aussi là, dans
J'ai deux points qui me restent, puis c'est deux points qui sont venus me chercher un peu plus dans ma jeunesse, puis que ça, je les ai vus avec des yeux d'enfant, puis là, je les vois avec des yeux d'adulte, puis je les comprends pas pantoute de la même façon. Premièrement, le commandant Cobra dans G.I. Joe, ce gars-là, il a toujours des plans de marde du genre, on va ouvrir des chaînes de restaurants de fast-food, puis on va cacher des lance-missiles nucléaires dedans, puis on va prendre les États-Unis en otage.
C'est où ce que c'est un plan de marde, ça?
C'est un plan de marde. Son équipe doute constamment de lui. À chaque fois que le commandant Cobra, dans un épisode de G.I. Joe, dit « Hey, les gars, on va faire ça », t'as tout le temps Destro ou un autre qui arrive et qui font « T'es-tu sûr? Tu penses-tu que ça va marcher? » Il n'y a aucun leadership.
Aucune crédibilité.
Je ne catche même pas comment il a fait pour devenir commandant. Il n'y a clairement pas d'aptitude à rien. Il est pas bon.
Il a juste un legit OG masque miroir.
Ben, c'est ça, tu sais. Honnêtement, c'est un running gag sur deux pattes.
C'est Skeletor.
Ça n'a pas de sens. C'est le Skeletor des militaires. Je vais terminer avec celui-là. Puis lui, c'est un sujet quand même récent. Puis c'est un enjeu de société, je vous dirais. On va parler de Gargamel dans les Schtroumpfs. Gargamel, c'est un vieil homme seul qui vit avec son chat dans la forêt. Puis qui essaie d'attraper des petites créatures bleues. Fait que lui, là,
pour
les manger, les transformer en or ou les revendre.
Puis on sait même pas s'il existe pour de vrai.
Ben, clairement, on a un enjeu de société. C'est un problème de société. On a un vieil homme schizophrène qui habite seul avec son chat, qu'il fixe sur des créatures bleues. Il est clairement seul parce qu'un moment donné, dans sa tête à lui, il réussit à les attraper. Puis la première affaire qu'il fait, c'est qu'il crée la schtroumpfette. Parce que pour battre sa solitude, il veut la compagnie féminine. Fait que ce vieux monsieur schizophrène-là, il vit dans le bois, puis honnêtement, ça, le monde devrait arrêter de rire de lui. Il se prend pour un sorcier, ça n'a pas de sens. Fait que je ne l'interprète vraiment pas de la même façon que
le vilain ici, c'est la solitude de nos personnes.
En fait, c'est la société qui n'est pas capable d'encadrer les gens avec des problèmes.
Non, le vilain dans les Schtroumpfs, c'est le moche.
Mais il a tout compris.
Peyo est avant-gardiste.
Peyo, c'est le moche.
Honnêtement, Peyo, il a décrit 2018 et les problèmes bien d'avance. Fait en gros, c'est un peu ça. C'est que des fois, on a tendance à juger les méchants rapidement et à excellent. Dire leurs plans sont... Puis j'aurais pu continuer de même, tu sais, du genre 2000... C'était quoi? C'était 2012 où le méchant, c'était tout... Tout sautait. J'ai jamais vu autant de monde mourir de même.
La planète fait un big fuck you à l'humanité.
Puis ça m'a amené à mon dernier constat qui est il y a comme une gradation constante dans les films de méchants, dans les actions des méchants dans les dernières années où au début, c'était on va voler de l'argent, on va attacher une femme sur les rails de chemin de fer, on va kidnapper quelqu'un. Là, c'est des aliens qui arrivent, qui font sauter à la Maison-Blanche. La Terre s'auto-anéantit elle-même. J'ai hâte de voir en 2022, ça va être quoi les films? T'sais, qu'est-ce qu'ils vont faire les méchants? C'est, je ne sais même plus comment ils peuvent topper ça. T'sais, à un moment donné, la planète se tue.
Ça va être les Mexicains.
Fait que ça ressemble à ça. C'est pas mal mon segment. Joe, toi, tu nous as préparé quelque chose de spécial.
Excellent ton segment, André.
Merci.
Moi, je m'ai tapé une série que j'aime beaucoup, que j'ai écoutée dans ma jeunesse plusieurs fois. Je suis pas mal sûr que vous l'avez toutes déjà vu, peut-être pas au complet. Moi, je m'ai tapé les 122 épisodes dernièrement. C'est Batman 1966
avec
Adam
West,
en legging. Puis, t'as jamais vu ça? T'es trop jeune. Mais
c'est pas grave.
T'écouteras ça. C'est Batman, dans le fond. Mais ça n'a rien à voir avec le Batman d'aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était d'autres choses. C'était un show créé pour des... techniquement, c'était pour des cabarets au début, des cabarets Playboy où il y avait des shows de burlesque. Puis ils présentaient ça à des hommes en complet qui allaient prendre un petit drink, je ne sais pas comment dire, un martini sûrement ou quelque chose que ce monde-là à l'époque buvait en complet.
Imaginez-vous Mad Men.
Moi, ouais, genre Mad Men qui écoute des épisodes de Batman dans un cabaret.
Ouais.
Là, après, il y avait une petite madame qui faisait un show de burlesque, puis un gars chaud qui venait faire des jokes, là, comme des shows de burlesque. Et ils ont fait ça pour ça, puis c'est peut-être une raison pourquoi que à chaque fois qu'on écoute un épisode, bien, on voit le vilain, puis sa gang de vilains, puis il y a tout le temps une femme. Bien, la femme, c'était souvent une playmate ou des affaires de même, puis ça leur faisait de la publicité dans le temps. Mais les enfants, ils ont beaucoup apprécié le show par après, fait qu'ils ont commencé à passer ça à TV pour le monde normal. Fait que moi, j'ai décidé de prendre une dizaine de vilains de cette série-là, puis d'analyser leurs motifs et les raisons de pourquoi ils font ce qu'ils font, et un peu aussi la valeur de ce qu'ils font sur le marché réel, parce que des fois, ça n'a pas super gros de sens. Fait que c'est ça. Bon, un de mes premiers vilains, j'ai pas vraiment d'ordre particulier en passant dans mes feuilles. Fait que si vous aimez pas l'ordre, vous pouvez l'interchanger à votre guise. Mon premier de la soirée, c'est King Tut. C'est un méchant dans Batman qui était dans le fond un professeur d'égyptologie. Moi, je trouvais ça assez spécifique comme département. Y a-tu tant de monde que ça qui décide d'étudier en histoire de l'Égypte en particulier, genre, et non juste toute l'histoire en général? Mais j'ai checké sur Google, puis ça existe. Fait que...
non!
Oui, aux États-Unis surtout, il y en a pas bien ben ici. Lui, il a découvert, si on peut dire, sa méchanceté, sa motivation, dans le fond. Pendant une manifestation étudiante, il a mangé une roche à la tête. Parce que quelqu'un a pitché une roche. Et ça, c'était en masse. Dans le fond, c'est un traumatisme crânien, sa motivation première d'être un criminel. Le coup a automatiquement fait de lui un pharaon de l'Égypte ancienne.
Et enfin, il est devenu schizo.
Un autre schizo. De même, tu sais, le classique, mange un coup sur la tête puis tu changes, qui est totalement faux. Là,
c'était une roche imbue d'un pouvoir mystique.
Genre, là, tu sais, lui, c'est en gros. Puis qu'est-ce que je trouve particulier de ce personnage-là, c'est que OK, il y a peut-être des plugs parce qu'il est professeur d'égyptologie, mais il avait tout le costume de prêtre, là. Tu sais, genre, il mange la roche, boum, scène d'après, il s'habille, il y a un soude de pharaon, là. Il traîne-tu dans son sac avec lui tout le temps? Y a-tu un garde-robe secret de linge de pharaon? Tu prépares-tu ta shot, là? Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, fait que lui, c'est ça. Lui, en gros, ses projets, là, de criminel. Il y en a qui volent des banques ou qui font des plans de même, des fraudes ou quelque chose. Lui, à part juste être malaisant puis awkward, genre, puis de faire des demandes insensées qui rapportent toujours avec l'Égypte, puis qui sont toutes... Ils se regardent le monde, ils sont dans Gotham, ils sont comme « Christ, on n'a pas ça, nous autres, est-ce qu'ils nous parlent de cette affaire de l'Égypte ancienne? » Tout le monde capote, mais dans son plan, il dit « Moi, je vais tuer Batman et Robin, parce que, automatiquement, c'est leur ennemi, son ennemi. Lui, il est roi de Gotham, qui est l'Égypte, dans le fond. » Et c'est automatique. Fait qu'il décide... je viens de rire. Il décide d'essayer de kidnapper les deux, mais je sais pas pourquoi, il y a une hargne envers Robin particulièrement. Genre, à toutes les fois qu'il voit, c'est lui qui déteste, c'est lui qui cible de ses affaires. Genre, Batman, c'est comme t'es là, mais je m'en crisse. Il prend Robin, puis quand il a kidnappé les deux, il l'attache au-dessus d'un crocodile vivant, genre. Puis à côté du crocodile, genre, juste pour être sûr, il y a comme un gros chaudron de cire bouillant. Je sais pas combien ça coûte d'avoir autant de cire, genre, prête de même, puis la garder constamment en ébullition, genre, là. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je trouve pas pratique quand t'es un vilain puis que tu veux tuer quelqu'un, genre, tu sais. Mais lui, il fait ça, puis c'est juste ridicule comme plan. T'sais, pourquoi pas? Puis ça, je vais peut-être revenir avec ça. Là.
Ça me fait juste la donner au crocodile d'arrêter ça.
Pourquoi? C'est ça. Pourquoi l'attacher puis espérer? Crisse la terre à côté ou dépose-les dans l'affaire de C. Là. Fuck off. Pourquoi mettre une corde puis espérer que la corde lâche ou quelque. Tu sais, ça, en Égypte ancienne, il était plus violent que ça. En tout cas, c'est. Fait que, non, ben c'est vrai, le gars, il a zéro motivation, il est tout le temps assis, il est tout le temps, ah, fuck, change pogné encore ici. Mais c'est lui, puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il perd ses pouvoirs, Batman règle ça, il se bat, un moment donné, tu sais, les classiques scènes de bataille de ces épisodes de Batman-là, ben un moment donné, il l'accote sur un, puis ça, c'est commun dans le temps, tu sais, les gens de mini pylônes avec une tête en buste, là, dessus, là, ou de quoi de même, là. C'est classique dans les vieilles séries. Là. Ils mettent ça là-dessus, puis tout le monde, c'est comme, fais attention, il y a une statue, puis tu le sais qu'il va l'accrocher, puis que la statue va tomber. Bien, comme de fait, ils se battent. La statue, il l'accroche à la tête. Il redevient un prof d'égyptologie. Aucune arrestation apportée envers ce dude, genre. Il a quand même kidnappé deux gars, essayé de les tuer, dans un sens, même si sa tentative était boiteuse. Mais c'est comme, ah, c'est correct, t'es revenu bien normal. No problem here. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'ils font ça, mais une couple d'épisodes plus tard, ils remangent un autre coup, puis ils redeviennent exactement le même. Tu sais, c'est aider ce monsieur-là.
Puis pourtant, t'as repiqué une question que t'as posée à Eric tantôt, tout ça en 22 minutes?
Ben non, le gars, il y a eu 3-4
épisodes.
C'est pas juste un épisode, mais le premier coup de la taille, puis toute la quête d'Égypte prête, ça, c'était en 22 minutes.
My God.
On se souviendra, par exemple, que c'était deux parties. Une partie qui
même
captait
batteur,
Batman.
Même batteur,
exactement. Fait que c'est un 44 minutes. Un autre gars qui était dans la même série, parce que je parle juste de cette série-là, c'est Egghead. Un gars que, dans le fond, c'était Conehead. Ils se sont inspirés de ce dude-là. Puis ce dude-là, il était interprété par Vincent Price. Fait que c'est comme le rôle le plus minable de cet icône, genre de l'horreur-là. Là, il joue un dude habillé dans un complet jaune, or, comme un œuf, et blanc. Avec une tête en forme de... C'est comme Conehead, mais un petit peu moins élevé, genre. Parce que je pense qu'il y avait des affaires de copyright, de tête d'œuf pour le Conehead.
Tu peux pas l'appeler Humpty Dumpty non plus.
Ouais, mais c'est ça, faut pas... c'est un peu... Carrément, c'est comme un Humpty Dumpty real life, genre. Puis lui, pour aucune astide raison, là, apparemment, en tout cas, il s'en sert pas, tout le monde l'appelle le criminel le plus intelligent qui existe. Puis... Ça marche pas, là, son affaire, là, vraiment. Puis si c'est lui le plus intelligent des criminels, j'aimerais voir le moins intelligent, parce que ça vole pas haut, là, son affaire. Lui, sa seule existence, je pense, son but, c'est d'avoir des jokes d'œufs, surtout, d'avoir il pitch des bombes puantes d'œufs. Il pitch des bombes faites en œufs, je veux dire, là. Puis qu'est-ce qui est drôle, il y en a une, c'est du gaz lacrymogène qui fait pleurer, c'est ça, ou quelque chose de même?
Oui, je crois que oui.
En tout cas, je ne suis pas un expert en gaz.
On va dire oui.
Mais il fait des genres de bombes lacrymogènes d'œufs. Là, tu te demandes comment il fait ça. Tu sais, ça doit être juste l'emballage d'une bombe lacrymogène normale. Non, il nourrit des poules aux oignons seulement. Et les œufs que ces poules-là pondent, ben, il lance, puis c'est ça qui fait un gaz vert qui fait pleurer les gens. Et tout ça est interprété. C'est pas un dessin animé.
Il me semble que t'es fait pourrir les œufs, puis ça va sentir le yard, puis le monde va brailler pareil.
C'est une autre solution. Probablement qu'il a fait ça aussi. Il avait de l'air à connaître ses œufs.
Il se casse le bessic,
en maudit, là. Mais son seul motif, c'est qu'il vole des œufs en or. Il vole tout ce qui a rapport avec le mot œuf. Il vole même des pancartes exit. T'as donné une idée. Non, mais. Tu sais, il savait pas là, où aller. Là. Tu vois que ce gars-là, combien ça vaut, là, ça? Là? On s'entend-tu qu'élever toutes tes poules et les nourrir, ça doit te coûter plus cher qu'elle rapporte la petite pancarte que tu voles. T'as quatre gars à payer. Ces gars-là.
Il y a des henchmen?
Ben oui. Ils ont tous des henchmen, tout habillés pareil avec des chapeaux en œuf.
C'est vrai, puis t'as tous les uniformes en plus à mentir le coût de ça.
Tu payes ça, le nettoyage de ça, c'est des coûts. Ce monde-là, il n'y avait pas de comptable derrière eux autres. C'est clair et certain.
Il vendait-tu des Fabergé?
Il y a un épisode, il essaye d'en voler un. J'ai checké. Tu savais-tu que ça revient souvent dans les 80s, des Fabergé Eggs, ça vaut beaucoup, puis nanana. Tu sais quoi, ça, ces œufs-là?
C'est de l'or.
C'est des œufs. Qu'il était fait en cadeau pour des empereurs grecs, genre, il y en a eu 46 de fêtes dans le monde, dans le temps. Il en reste genre 8 ou 10, genre, de disponibles dans un musée en quelque part. Puis, dans les années 80, là, tout le monde volait ça. Genre, c'était commun au bout, comme si tout le monde a un œuf Fabergé chez eux, mais non. C'était ridicule. Puis lui, comme de fait, il n'a un à Gotham.
J'ai-tu volé un punch ou ça a juste sorti naturellement? Wow, good, je suis fier de ça. Je ne savais pas ça, des Fabergé. C'est
le pouvoir de la culture.
Ouais. Ce qui est drôle, là, c'est que lui, sa base, c'est une usine de caviar.
Ça fait du sens.
Oui.
Parce que c'est des œufs, tu sais. Mais pareil.
Ça, ou un poulailler.
Pourquoi que.
Mais il y a un poulailler aussi.
Mais c'est qui le gars qui sous-loue son espace d'usine à des criminels? Je catch pas ça, genre. Tu laisses des doudes le soir aller là, faire de la merde. C'est mieux d'être rentable. En tout cas, ça, mais c'est
dans le fond, on pourrait dire que Batman 67, c'est l'ancêtre un peu du vilain de la semaine. Tu sais, comme qu'ils font en Star, tu avais des séries comme Arrow, Flash.
Ouais, c'est
t'avais le méchant de la semaine.
Mais c'était carrément ça, dans le fond.
La seule différence, que c'était tous des schizos.
Ils ont tous des problèmes quelque part. Pour finir avec Egghead, un de ses plans les plus stupides qu'il a fait, c'est il voulait voler un œuf de dinosaure parce que c'est un œuf. Mais il voulait le faire éclore. Puis, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Fouille-moi pourquoi et comment. Mais il y avait Batman dans l'œuf, genre, calculé, parce que c'est ça le plan, genre, on va le laisser le voler, il va penser ça, puis moi, je vais être dans l'œuf. Mais.
Plus capable.
Pourquoi, genre, pourquoi pas juste l'empêcher de voler le faux œuf? Faut vraiment que tu te crisses dedans, puis que tu attends qu'il t'amène à son usine de caviar. Peut-être, s'il voulait pas l'éclore, là. T'es pogné dans l'œuf. Il attend 2-3 jours, il l'ouvre, il y a Batman mort, l'axe dans le fond. Il aurait réussi sa job, mais non. En tout cas, aucune petite motivation. Moi, c'est les dépenses qui me fuck là-dedans. C'est pas rentable, ta business de criminel. Puis,
là, de l'autre côté, il devait passer ses commandes de Costco là-dessus, lui, sa business.
C'est sûr qu'il y a de quoi en quelque part, de paperasse, genre, de nowhere. Là. Mais un autre un peu similaire, que je pense même qu'il était dans le band Public Enemy pendant un bout, s'appelle Clock King. C'est un gars un peu à la Egghead, il tripe beaucoup trop ses horloges, puis il vole des toiles d'horloges, du Dali, dans le fond, il nomme pas nulle part, mais c'est carrément une toile de Dali qu'il vole. Il essaie de voler des montres, une collection de montres antiques. Ça c'est le fun, j'ai une petite anecdote de montres antiques, là. J'ai checké les modèles de montres qui volent. C'est la collection antique à Bruce Wayne directement. Fait que tu te dis, ça doit valoir quand même pas pire. Mais j'ai été voir sur eBay. Puis les montres qu'il y a, tu peux les avoir entre 2 et 55. Puis la plus chère était 308$. Fait qu'il y avait quand même une vingtaine de montres. Si tu exagères puis tu dis qu'ils sont toutes à 300$, 20 fois... C'est juste 6 000$, là, dans un sens. Là, pour un criminal mastermind, c'est pas beaucoup. Puis s'ils sont à 2,55, ça t'a coûté plus cher rentrer là que d'autres choses. Le gars, il y a des... Non, mais c'est vrai, pareil, quand il... Le gars, il y a plein d'horloges, ça coûte cher en esti, son
affaire. Ce que j'aime, c'est toutes les notes, là, de mon côté, vous voyez pas ça. Puis à la maison, dans l'audio, vous le verrez clairement pas.
J'ai 122 épisodes derrière la caméra.
Il y a de la recherche en arrière de ça. Il a même calculé le taux d'inflation des montres de 70 à 2018.
Ben, faut mettre ça en perspective. Une autre affaire côté dépenses que je trouvais assez spéciale. Lui, il y a un système de caméra live. Puis il a l'air d'avoir plusieurs angles, genre, ses caméras, parce qu'il écoute ça comme si c'était à la TV, genre. Puis c'est dans toutes les bijouteries puis les horlogiers qui existent de Gotham.
Fait qu'ils n'y appartiennent pas.
Fait que quand qu'il... C'est pas à lui les places, mais il est toujours prêt à intervenir si quelqu'un vient vendre une montre antique. Genre, c'est de même, tu vois, une amie à ma tante, Ariette, au début de son épisode, elle vend une montre. Puis là, ils sont comme, oh, oui, une montre qui vaut sûrement 300$. Fait que là, ils rentrent là, ils me pitchent du gaz encore. Ils ont tous du gaz. Tu sais, c'est comme le
bris. Quelle couleur son gaz, lui?
Lui, il a tout, il a vert, mauve, ça change tout le temps.
Dans le fond, c'est le color run mais... quand il fait un clip. Il rentre, dans le fond, il y a du gaz partout.
Mais le vrai vilain, c'est le gars qui fabrique le gaz à Gotham. Lui, il doit faire la pièce en crisse, là. C'est comme, ils en ont toutes, là. Mais combien ça coûte, un système de caméra de même? Moi, je sais qu'à job, là, celle qu'on a, il y a à peu près 8 caméras, puis il coûte 5 000$. Fait que lui, il y en a dans toutes les bijouteries de Gotham.
Fait que c'est une run de montre, puis tu payes même pas ton système de caméra, là. Puis t'as pas embauché tes henchmen.
Exactement.
T'as pas payé ton gaz, t'as pas ton costume.
Tout ça pour voler des montres.
Ça doit être une usine horloge, si on se fie au pattern.
Puis tu sais quoi le pire là-dedans?
Non.
Il dit à un moment donné, c'est même pas pour la revente, man. C'est pour sa collection personnelle.
Fait mais il est déjà milliardaire ou quelque chose, peut-être, non?
Ben, je ne sais pas. En tout cas, il n'en parle pas. Ils disent pas d'où ça vient.
Clark King sonne beaucoup comme White Horse dans Mr. Robot.
Mais tu trouves-tu que c'est la belle chose là-dedans, puis je trouve, c'est on explique trop les choses en 2018. Tu sais, prends juste l'approche qu'on a. Là, on est en train de rationaliser tout ça dans les années 70. C'est qui, lui? Ben, il vole des montres. Pourquoi?
On s'en colle.
Il vole des montres. Il les a-tu volés? Oui, c'est ça.
Un moment donné, il est allé dans un musée d'art où il exposait des horloges, comme d'habitude. Et il est arrivé là avec une affaire, je te dirais, là, c'est l'équivalent là, d'un mini frigidaire, genre là, en grosseur, en masse volumique. Puis c'est plein d'horloges. Puis lui, il fait passer ça parce qu'il s'est mis une genre la grosseur seulement du frigidaire, pas l'utilisation. Mais il s'est mis juste une moustache puis des lunettes, fait que personne ne le reconnaît, genre. Puis il rentre là avec son frigidaire dans le musée comme si rien n'était. Puis il fait comme je suis un artiste. Nanana. Il fait son show, il charme tout le monde. Devant tout le monde, c'est ça qui me fuck le plus. Puis il colle ça sur le bord du mur. Il part la machine. Puis là, ça se met à tourner. Comme plein de gear, d'horloge, puis tout. Mais personne s'en rend compte. Il y a 30 personnes qui sont là puis qui regardent. Personne ne remarque que c'est en train de creuser un trou dans le mur en arrière, gros comme, je te dirais. 1,5 mètre, 2 mètres de diamètre, genre, là, ce qui est quand même assez gros. Puis tout ça pour rentrer l'autre bord, justement, dans la galerie, l'autre partie de la galerie d'art, voler des toiles d'horloge. À place de juste prendre le corridor qui est à côté, puis rentrer dans la même salle.
OK, parce qu'il y a une porte à côté.
Il y a la porte par où Batman rentre dans la scène.
Mais c'est beaucoup moins spectaculaire de prendre la porte.
Mais il fait ça devant tout le monde. Il n'y a pas de laser dans la pièce ou whatever. Là. Tout le monde peut rentrer là. Puis, en tout cas, il se casse le basic, le dude pour sa collection de montres. C'est ridicule. Puis quand il finit par pogner Batman un moment donné, ce qui est très drôle, c'est il dit « Je vais les coller dans un sablier géant et quitter pendant que le sable leur tombe dessus parce que rien ne peut arriver de mauvais naturellement à ça. » Fait que idée de marde.
Dans Strange Brew, il y a une idée comme ça aussi, mais au lieu d'être dans une affaire de un sablier,
un sablier de temps.
Ils sont dans un gros cake de bière.
Oh, mais ça, tu meurs noyé. Ironique, là.
Non, mais en fait, Doug, il boit toute la bière, puis il devient gros, puis il sauve la vie de tout le monde.
Mais tu sais, ce qui est plus ironique là-dedans, c'est que le gars a quand même réussi à colisser Batman dans le sablier.
Ça aussi, ça me fuckait parce que je ne catchais pas la forme de comment il l'a mis.
Il a réussi à le mettre genre, dans un état second, dans l'assommé, whatever. Puis après ça, il réussit à le mettre dans le sablier, mais après ça, son petit plan, il s'adérape.
Tu sais-tu comment, en plus? C'est son horloge qui faisait un son spécial quand elle sonnait. Ça l'a hypnotisé, knock-out.
My God. Hey, Milter.
La technologie là-dedans, man.
En terminant, mon cher Milter, il reste environ 5 minutes.
Ah, pour de vrai, OK, je me grouille. Je vais y aller très vite, d'abord.
Fais-nous un blitz, là, parce que t'as beaucoup de feuilles.
Oui, Zelda the Great. Elle, c'est une magicienne de marde, un peu comme la magicienne.
Elle?
Elle, c'est une femme, oui. Les vilains femmes dans Batman étaient très présents. Elle vole 100 000 piastres, pas une scène de plus, à chaque poisson d'avril. Elle choisit sa date. Elle, c'est une magicienne, dans le fond. Puis, pas une magicienne avec des vrais pouvoirs, là. C'est juste une magicienne de marde, là, comme...
Jean-Luc Langevin.
David Blaine, là. Ben, Jean-Luc Langevin est quand même pas pire, mais je vais dire David Blaine. J'irais même plus loin en disant Spidey, le magicien du cinéma Guzzo.
Oh, calvaire!
C'est... Non, mais tu sais, c'est vraiment du zéro talent. Puis, elle, son 100 000 piastres qu'elle vole, c'est juste pour ordonner à quelqu'un d'autre. Parce qu'elle vole le 100 000, puis après, elle surveille de bord, puis elle donne le 100 000 à un dude, comme Luc Langevin, genre, qui y vend un truc de magie pour son show. Puis elle, à tous les ans, veut renouveler son show.
Fait qu'elle fait juste payer ses dettes, finalement.
Elle se crée des besoins, fait qu'elle vole l'argent pour ça. Oh, malheureusement, c'est ridicule, son affaire. Elle tombe en amour avec Batman, comme toutes les femmes vilaines de cette série-là. Puis le seul plan pour tuer Batman qui aurait fonctionné, c'est celle du gars à qui elle donne le 100 000 piastres, qui était d'attendre Batman dans une salle avec deux machine guns.
Puis ça aurait pu marcher.
C'est
ça.
Le seul plan, je pense, qui aurait pu marcher dans la série. Puis
c'est pas super magique, par exemple.
Exact. Mais... Ouais, mais elle l'a stoolé, fait qu'il n'est pas rentré dans la salle, il est rentré par la fenêtre, puis il n'est pas mort. Je vais sauter tout de suite à Riddler. Riddler, qui est le Sphinx. Dans le temps, il était beaucoup moins troublé mentalement qu'on voit aujourd'hui, mais en même temps, il était pareil. Moi, il me fait penser à un genre de jeune M. Burns qui traite beaucoup trop ses charades. Il est hyperactif, il se fait les mains, il saute partout. Ses énigmes, ils ont totalement pas... À l'époque, il n'y avait aucun asti de rapport avec la réponse que Batman donnait, puis la réponse était toujours bonne, genre, c'était comme une évidence pour lui, mais c'était zéro crédible avec la référence. Une des affaires qui m'a marqué dans la série, c'est que sa seule vraie raison, puis il le mentionne à plusieurs fois, Batman, c'est que c'est un gars qui a lâché l'école secondaire. Fait que c'est genre une de ses seules motivations. Puis le pire, c'est que ça revient dans la série. Il y en a deux, trois autres que c'est comment lui, il a lâché l'école. C'est un high school dropout. Fait que c'est un criminel. Fait que c'est pas mal ça. Il fait des faux crimes pour pogner Batman. Il joue sur la fiction pas mal. Il est pas mal juste, je te dirais, weird. Ça reste un de mes gars spéciaux.
Je me souviens de toutes ces énigmes, justement. Là, je l'écoutais, là, puis... Il pluguait la réponse, puis là, t'avais tout le temps Bruce Wayne, il était comme, mais c'est évident!
Ben oui.
Il pluguait la réponse, puis j'étais comme, non, c'est pas évident!
Ça n'a aucun
ça a juste
lien!
Pas de lien, ça n'a pas de sens!
Un moment donné, il a kidnappé Robin pour qu'il prenne son suit pour habiller une fille qui travaille pour lui en Robin, mais quand on voyait, c'était clairement une femme, là. Puis le monde...
Mais Batman, lui, il voyait rien.
C'est ça, il voyait rien, ce monde-là. Il était un peu cave.
On va avoir le temps d'un dernier, mon Joe.
Un dernier, OK, check bien ça. Je vais sauter, gars, je vais sauter Faux Frère, qui est de la merde. Je vais sauter le pingouin, qui était très bon. Le Joker aussi, c'est un high school dropout, juste le dire. Mr. Freeze, un autre fucky qui trippe juste trop sur le froid. Il y a un sous-marin en forme d'iceberg. Ça se paye, ça. Ça se paye, man. Il élève des fucks qui tuent du monde. Un fuck, j'ai checké, c'est pas dangereux sur Google. un que je vais finir avec, je pense que c'est celle qui a le plus compris la business, pour de vrai. Malheureusement, on le voit une seule fois dans tous les Batman. Il s'appelle Louis Lilac.
Lilac, comme
un lilas, dans le fond. Okay. Il est habillé en costard lilas. C'est un gangster des années 20. Le gars, il n'est jamais sorti de sa période de ça. Au début, je ne le catchais pas, le gars, parce que le gars, sa réputation, c'est un gangster, mais c'est un gangster qui deal du parfum illégal. Là, moi, j'ai pensé à un dude tout de suite quand j'étais jeune, puis j'étais dans un bar dans le coin chez nous, puis il y a un dude qui est rentré avec un sac à dos plein de parfum, puis qui a commencé à essayer de vendre ça au monde. Puis j'ai catché assez vite que c'était du parfum illégal. Ce gars-là qui était dans le bar ce jour-là, il avait loin d'avoir de l'air d'un gangster. Puis il avait plus l'air d'un gars qui a besoin d'argent pour manger. Fait que j'avais juste lui quand je pensais à Louis Lilac. Finalement, j'ai compris que ce gars-là, il a un racket de fleuristes et que son but, c'est de contrôler toutes les fleuristes de Gotham pour les senteurs, les parfums. Et aussi, il veut transformer, puis ça, je l'ai plus ou moins catché, les animaux du zoo de Gotham en parfums. Mais vu que c'est illégal, j'ai compris après...
Attends, c'est illégal de transformer des animaux en parfum?
Ça a l'air que oui. Puis c'est encore plus illégal de... Ils font des glandes, ils prennent les glandes des animaux.
Ouais.
Ben, il ne peut pas prendre les glandes
de
ces animaux.
Des affaires comme genre, ça.
Moi, hey, écoute, mon chat s'est vidé les glandes il y a deux semaines, puis je vois pas vraiment comment quelqu'un voudrait faire du parfum avec
moi,
ça.
Moi, je ne catche pas comment prendre ça. C'est ça qui me fuck. Mais il a kidnappé Bruce Wayne et Robin pour qu'eux performent des opérations sur les animaux illégalement pour que lui aille les glandes. Mais qu'est-ce que j'ai checké? C'est que ce dude-là, c'est probablement le dude qui fait le plus d'argent dans la gang. Parce que l'industrie du parfum, en 2018, vaut 45,6 milliards. Puis comparé à toutes les affaires de marde, là, comme le Joker, je ne l'ai pas dit, mais il a essayé de voler. Ouais, ben, les montres à 30$, un moment donné, le Joker, il vole des bijoux. Il y a une centaine de bijoux dans les mains. J'ai checké sur Amazon et eBay, ces bijoux-là vendent environ 25$ chaque, ces diamants-là. Fait que le gars, il vole une poche de 2500$. Lui, il est en train de frauder une industrie de 45,6 milliards.
C'est-tu quoi? J'ai l'impression que lui, là, sa sideline, c'était quoi? C'était de vendre le gaz aux autres.
Peut-être. Peut-être. Parce que, en tout cas, ce gars-là, c'est lui qu'on le voit le moins souvent. C'est le gars qui a catché le plus la business de Gotham. Louis Lilac.
Un gros merci, Joe. Puis parlant de
bienvenue.
Merci, là, regarde, ça va être le temps de closer le show. Mais on voudrait remercier Héloïse puis la belle gang du Café Les Oubliettes. Honnêtement, c'est super cool. Méchante belle place, honnêtement, guys. Une bonne main d'applaudissements. Honnêtement, super belle place, vraiment le fun. Il va y avoir d'autres beaux podcasts qui vont s'en venir en plus. Fait que ça, on va vous inviter à aller
jusqu'au
voir ça.
Jusqu'au 29 juin, si je ne me trompe pas.
Si je ne me trompe pas. Jusqu'au 30 juin. On voudrait également remercier pour la captation vidéo l'équipe Tardif de Royal Lepage. Ils ont un podcast qui s'appelle Les Machines. C'est disponible sur Facebook et sur YouTube live. Là. Fait que si vous l'écoutez en différé, vous l'écoutez en vidéo, en audio, peu importe, ben allez faire un tour sur la page Facebook.
Les Tardifs ont vendu mon condo en passant. C'est des machines.
Fait que c'est des machines. Faites-leur confiance pour votre business. Puis en plus, ben, ils font du contenu de qualité. On veut remercier Chuck pour l'invitation, honnêtement, puis l'organisation. Merci beaucoup au Minifest
de
nous avoir accueillis. C'est vraiment le fun. C'est toujours le fun de pouvoir faire des lives et d'être avec vous. Fait que, guys, sur ce, ben, on est Geek Collectif, le podcast. Vous pouvez nous rejoindre sur geekcollectif.com. Sinon, sur Facebook aussi également, vous allez retrouver les données de chacun des collaborateurs. Un gros merci et bonne soirée à tous.
Au revoir.